rencontre avec nos évêques.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue. Thibaut de Tuile au micro de Radio Présence pour notre émission hebdomadaire de rencontre avec les évêques de notre région. Bonjour Monseigneur Camiade.
Bonjour Thibaut, bonjour à tous les auditeurs.
Vous êtes l'évêque de Cahors et pendant tout ce mois d'avril, nous avons évoqué avec vous la figure de l'un de vos prédécesseurs, le bienheureux Alain de Solmignac. Il a été à la tête de l'évêché de Cahors pendant 23 ans, en plein XVIIe siècle. Nous avons déjà longuement parlé de la naissance de sa vocation, de son premier rôle à l'abbaye de Chancelade. Et puis la semaine dernière, nous avons évoqué comment il est rentré dans cet évêché de Cahors, les premières réformes qu'il a entreprises, ses visites pastorales qui étaient l'essence de la conviction qu'il avait de réformer cette église. Continuons aussi avec ses réformes. C'était un évêque qui a innové, toujours dans la suite du Concile de Trente. Il avait ce souci de la formation de ses prêtres. Et c'est, je crois, le premier évêque à avoir installé dans son diocèse un séminaire.
Il semblerait bien, oui. Alors, c'est jusqu'à preuve du contraire.
Voilà.
Puisqu'on dit que la fondation du séminaire, c'est le 15 juin 1643. Et à l'époque, il y avait des séminaires déjà, notamment à Paris, mais c'était plutôt les lazaristes, les jésuites,
les congrégations qui instituaient
des séminaires, et on envoyait les prêtres. De même, à Cahors, il y avait des prêtres qui avaient suivi des cours à l'université, qui avaient des grades de théologie, mais ils n'avaient pas été en communauté, en formation spécialement. Il n'y a pas de formation pastorale, il n'y a pas de formation en vue de la mission spécifique du prêtre. Et puis il y avait, je crois que dans la région de Valence, aussi dans la Drôme, il y avait un prêtre qui avait fondé un séminaire. Mais voilà, les évêques ne créaient pas de séminaire. Il y avait des raisons certainement financières et diplomatiques. C'est-à-dire que la création d'un séminaire, tel que le voulait le Concile de Trente, ça faisait déjà quand même plusieurs décennies que ça aurait dû être fait, mais il fallait que les paroisses participent. Et les curés ne voulaient pas. Donc un évêque qui ouvrait son séminaire se mettait nécessairement en conflit avec son clergé, ce qui a été le cas d'ailleurs du bienheureux Alain. En fait, c'est un groupe finalement d'une trentaine de prêtres sur 900.
Oui.
Qui se sont vraiment opposés, mais le nerf de la guerre c'était la participation aux frais de la formation du séminaire. Un séminaire diocésain devait être porté par la vie des paroisses.
D'accord.
Ça c'est toujours un sujet sensible,
oui,
quand on touche,
oui,
au portefeuille.
Mais le portefeuille, justement, enfin, on peut aussi en parler. Comme comte de Cahors, il avait donc effectivement il recevait beaucoup d'argent. Comme
oui, il avait des rentes.
Il avait des rentes, voilà, merci.
Bénéfices. Oui.
Mais lui, il en a fait quelque chose qui est aussi assez étonnant pour son temps. Il n'en a pas profité vraiment à titre personnel.
Ah non, il n'a pas du tout cherché à s'enrichir. D'abord, il est allé loger au château de Mercues, qui peut sembler prestigieux, surtout qu'aujourd'hui, il y a un restaurant auquel toutes les bourses n'ont pas accès,
oui,
à commencer par la mienne. Mais paraît-il très bon, je ne sais pas.
Il faut vous faire inviter. Appel au micro.
Oui, je ne critique pas, voilà. Mais c'est pas. Mais non, le château de Mercues, c'était un lieu aussi où il pouvait, d'une part, pour sa santé, parce qu'il avait des difficultés respiratoires et il n'y avait pas de chauffage. L'évêché de Cahors était humide, voilà, la ville était humide, donc sur la hauteur, il était mieux. Mais aussi, c'était pour être protégé, parce qu'il y avait des tensions politiques et son rôle politique le mettait parfois en danger. Donc il était effectivement au château de Mercues. Mais là, il a un peu, dans l'esprit de Saint Vincent de Paul, qui était son ami, il a par exemple fait enlever toutes les tentures pour qu'elles soient vendues et données aux pauvres, en disant il vaut mieux revêtir les pauvres que les murs. C'est une belle formule, mais ça dit aussi tout son état d'esprit. En fait, l'argent de ses bénéfices, il l'utilisait notamment pour les visites pastorales. Il avait remarqué que les prêtres de son diocèse étaient assez près de leurs sous. Et donc, dans les visites pastorales, il aurait eu le droit, quand un évêque à l'époque faisait une visite pastorale, il venait avec d'autres prêtres, avec le chancelier, le vicaire général, ils arrivaient à une dizaine, une douzaine, il fallait nourrir tout ce monde, les loger, etc. Donc ça demandait des frais. Eh bien, tous ces frais, il les prenait lui-même en charge pour que ça ne repose pas sur les paroisses. Et ça, c'était un, il a mis son honneur à cela. C'était une manière aussi de montrer que il accomplissait cette visite non pas pour ramasser de l'argent, mais bien pour annoncer l'Évangile gratuitement. Donc il y avait cet esprit de gratuité profond chez lui, mais aussi il voyait toute la misère du peuple. Alors on dit que dès qu'il sortait de Mercues, c'était la distribution, parce qu'il y avait tous les pauvres du pays qui s'approchaient, qui guettaient sa sortie, et il était extrêmement généreux avec tous.
Oui.
Il avait constaté aussi la misère, voilà, de beaucoup de paysans qui étaient déjà comme aujourd'hui. Le Quercy est quand même une terre un peu dure, et suivant les intempéries qu'il pouvait y avoir, suivant les difficultés, enfin, les terres rapportaient peu. Voilà, donc il était attentif à cela. Il y a eu aussi des périodes des pestes où il s'est beaucoup investi pour aller secourir les plus fragiles, même quand les prêtres, il arrivait que les prêtres, ils demandaient aux curés de rester quand il y avait la peste, rester au milieu de leur peuple, mais certains fuyaient. Et donc quand le curé fuyait, lui, il y allait pour secourir les gens, leur donner les sacrements, les encourager, etc. Enfin, voilà, c'est l'évêque des pauvres, des malades. Et il y avait un hôpital à Cahors, mais qui ne fonctionnait pas bien, qui manquait de moyens. Et normalement, ça aurait été le rôle du consul de s'en occuper, mais il n'arrivait pas à s'entendre avec ce consul. Et finalement, il a créé son propre hôpital. Donc, pour que les malades soient soignés et soient bien accueillis. Voilà. Et puis par la suite, il a vu aussi le nombre d'orphelins qu'il y avait, notamment peut-être suite aux grandes pestes. Et il considérait que les orphelins, il dit dans un magnifique texte, que l'évêque est le père de tous les pauvres. Mais il est plus spécialement le père de ceux qui ont perdu leurs parents. Et il investit tout son argent dans la création d'orphelinats. Et finalement, à la fin de sa vie, il va tout léguer aux orphelins.
Voilà, c'est ce dévouement sans faille qui l'a tué. Il s'est vraiment épuisé à la tâche. Et voilà, c'est...
Sans doute, oui. Et puis aussi les épreuves, les difficultés, des maladies respiratoires qu'il avait. On dit qu'il est mort en 1659. En 1649, 10 ans plus tôt, il a une grosse alerte au moment de Noël. Il commence à cracher du sang, etc. On pense qu'il va mourir. D'ailleurs, ça excite tous les opposants parmi les prêtres lors du synode de 1650, qui vont tout faire pour essayer de le pousser à bout et qu'il en meure. C'est pour dire l'état d'esprit. Mais c'est aussi à ce moment-là que sa famille, qui l'avait pas du tout aidé quand il a reconstruit Chancelade, sa famille arrive à Cahors peut-être pour récupérer les biens qui sont les siens. Et c'est à ce moment-là qu'il fait son testament, en disant « Non, mes richesses ne viennent pas de ma famille, mes richesses viennent de l'Église, et je suis le père des pauvres, particulièrement des orphelins, donc mon testament c'est en faveur des orphelins. »
Alors il a été béatifié en 1981 par Jean-Paul II. Un petit peu avant, je vais citer cette phrase du pape Pie XI qui a reconnu son héroïcité. Il a dit « Il fut un exemple de maîtrise de soi dans une donation entière et généreuse à son devoir d'État. » Effectivement, c'est ce que vous venez de nous expliquer. Alors pourquoi est-ce qu'il a été béatifié seulement en 1981? Pourquoi si tard?
Alors c'est vrai que c'est un peu étonnant, mais c'est vrai que l'époque où il est décédé, il y a eu des miracles sur son tombeau, il y a eu une ferveur populaire, il y a eu voilà, et puis l'évêque qui lui succédait a été un excellent évêque aussi, et on aurait pu penser que le procès de béatification soit engagé assez vite, et finalement bon, il y avait toujours un délai, mais finalement ça n'a pas été fait. Donc il y avait une vraie ferveur populaire, un vrai culte, qui a toujours subsisté. D'ailleurs, je suis étonné quelquefois, on entend des gens qui disent « Ah mais nous, on prie de Alain de Solmiac depuis très très longtemps ». ». Mais je pense que c'est certainement du fait de la Révolution française que la béatification n'a pas eu lieu. Et puis par la suite, il a été un peu oublié à un moment donné quand même. Et alors c'est Jean-Paul II qui l'a béatifié. De ce que j'ai cru comprendre, la relance de la procédure est due aux chanoines de Saint-Augustin des États-Unis, qui ont eu les moyens, disons, de faire toutes les enquêtes, les recherches qu'il fallait. Il y avait régulièrement des gens le priaient, donc il y avait aussi des miracles. Il suffisait de faire de faire les expertises pour voilà. Et donc et puis je pense que c'était aussi dans l'esprit de Jean-Paul II qui avait écrit une constitution apostolique sur l'épiscopat, qui a aussi essayé de beaucoup conforter le ministère de l'évêque, de béatifier un évêque. C'est il y en a à l'époque moderne, il y a assez peu d'évêques béatifiés. Il y en a quelques-uns, mais
François
de Sales, mais il y en a très très peu en fait, et notamment d'évêques français.
Bien, donc pour conclure cette série d'émissions, on peut rappeler quelques événements qui dans votre diocèse prochainement. Donc le 9 juin,
un grand colloque historique voilà. Sur Alain de Solmignac.
Voilà.
En partenariat avec la Société des études du Lot. Et puis on a aussi Radio Présence qui est partenaire.
Absolument, et donc tous les renseignements naturellement sur le site internet du diocèse. Avant cela, le samedi 2 juin, un pèlerinage à l'abbaye de Chancelade.
Voilà, alors nous revenons un peu aux sources. Nous pourrons voir différents lieux, notamment le lieu où il a été ordonné prêtre, puisque nous fêtons cette année les 400 ans de son ordination sacerdotale, et il a été ordonné à l'époque, la cathédrale de Périgueux, c'était l'église de la Cité. Ce qu'on appelle l'église de la Cité à Périgueux. Et donc on va
pèleriner.
se retrouver là, aller prier sur les différents lieux et puis se remettre en mémoire les différents aspects historiques de sa vie.
Voilà, et pour finir, Mgr Camiade, peut-être une dernière question. Qu'aimeriez-vous que l'on dise de votre passage dans cet évêché dans 400 ans?
Je ne souhaite pas forcément qu'on en parle. Ce que je souhaiterais, c'est que les gens aiment le Christ davantage. Et voilà, après, il n'y a pas besoin forcément après de parler d'un évêque. Mais en tout cas, si on pourrait dire que j'ai eu beaucoup d'admiration pour Alain de Solmignac.
Merci beaucoup, Monseigneur. Merci de nous avoir accompagnés pendant tout ce mois d'avril et évoquer avec vous la figure d'Alain de Solmignac. À très bientôt.
Rencontre avec nos évêques.